votre vie dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 299e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis comme de coutume et pour la première fois depuis un mois avec Pierre.
Bonsoir
Pierre. Et nous avons le retour de Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Et nous avons à nouveau un grand plaisir à t'accueillir. C'est la troisième fois que tu viens, la quatrième, tu seras considérée comme animatrice de plein exercice.
Merci.
Voilà, et on te prévient. Hein. Donc tu es revenu de Suède. Donc,
tout à fait.
Dans nos contrées du Nord, ça va le temps. Vous avez des canicules comme ça en Suède.
Oui, mais elles sont plus courtes.
Elles sont plus courtes.
Et il fait froid la nuit.
Ouais. C'était le climat qu'on était censé avoir il y a encore assez peu de temps. On va donc vous expliquer l'actualité des deux semaines écoulées. Et Pierre, mon ordinateur met un peu de temps à démarrer. Je n'ai pas la liste des sujets et je compte sur toi pour en trouver un. Mais je sais que...
Ouais, sinon, l'antiquarisation, je fais comment faire pour régler son ordinateur qui met trop de temps à démarrer, c'est ça?
C'est ça, oui.
Bah, ok, d'accord.
On trouve un peu de temps.
C'est
pour
subtil. Du coup, je commence par tes sujets, comme ça tu vas aller chercher tes sources en même temps ou tu me les improvises en live? On fait comme ça?
Ouais, comme ça, tac.
Allez, non, bah sinon on va commencer par les miens. On va commencer un petit peu par Internet et vie privée. On va parler de DSA et de DMA, hein, les fameux Digital Service Act et Digital Market Act, les deux grandes lois européennes qui font grincer des dents les grandes entreprises de la tech.
C'est un petit peu notre running gag.
Ouais, mais qui marche le running gag, donc tant mieux dans un sens. Alors là, celle-là, alors vous me connaissez, c'est ma façon un peu taquine de nommer les choses. Les clous d'Américains ont été si mauvais que la Commission européenne s'y intéresse au titre du Digital Service Act. Service Act ou le Market Act, je sais même plus lequel des deux à force, c'est le Service Act a priori. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que en novembre 2025, on en avait parlé, je crois, dans cette émission déjà, l'Union européenne a décidé de cibler les géants de la tech américains qui gèrent l'info nuagique, comme on dit en bon français. Donc, les deux ciblés étaient Amazon Web Services et Microsoft Azure. Pourquoi ont-ils été ciblés? Pourquoi on s'est rendu compte que, tiens, c'est quand même important? Ben, en fait, le déclencheur, c'est il y a eu des coupures de service, donc notamment une coupure de service d'une quinzaine d'heures chez Amazon qui avait impacté donc non seulement les services de streaming d'Amazon, mais aussi Atlassian, donc une grande entreprise utilisée par les différentes startups de l'informatique justement, Docker, Epic Games, la messagerie Signal, et pas longtemps plus tard, Azure a eu des problèmes qui ont eu de nombreuses conséquences, notamment des passagers de vol qui n'ont pas pu embarquer ou des votes qui ont été interrompus au Parlement écossais. Donc quand on a ce genre de problème, ça veut dire que il faut commencer à s'en préoccuper. Et donc oui, pardon, c'est bien le Digital Markets Act. Donc en gros, l'objectif, ça va être de commencer à dire « Ok, ces plateformes-là sont dans des positions dominantes, donc désormais, elles auront l'obligation de permettre l'interopérabilité et la portabilité des données. » C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir facilement migrer tout le contenu que l'on a chez Amazon ou chez Azure vers un autre fournisseur d'informatique. Alors... je ne sais pas du tout comment ça pourrait se faire techniquement, c'est chaud, mais ça sera l'obligation pour eux de mettre en place ces choses-là. Et en tout cas, là, aujourd'hui, ils sont sous surveillance beaucoup plus étroite pour avoir fait quelques grosses conneries quand même. Sinon, une autre dans la série des Digital Market Act, on a Apple qui boude. Ils sont pas contents, ils sont chafouins.
Alors, tu parles de mesquinerie, Pierre. Ils ne veulent pas lancer leur IA... Moi, je dirais que c'était un cadeau, mais...
Ouais, oui, ben, c'est une façon mesquine de le faire. Ah tiens, t'as réussi à... Oui, le wiki fonctionne depuis le téléphone. Tout à fait. Donc, la mesquinerie, alors oui, c'est... Ben, en fait, Apple, ils sont chafouins, ils boudent. Et donc, quand Apple boude, ils disent, ah, au moins, l'Union européenne, elle est méchante avec nous. Donc après, ils sont allés embrasser la bagousse de Trump, donc il y a des bonnes raisons de le faire, hein, mais voilà, c'est là, en l'occurrence, donc a priori, alors c'est pas mon monde, donc je vous avoue que je m'y étais jamais trop intéressé, mais a priori, beaucoup de gens en ligne notamment se moquaient assez allègrement de Siri, parce que ben, Siri était un assistant qui a été développé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et qui était assez limité en compétences. On va dire ça comme ça, c'est Siri, donne-moi l'heure, Siri, je sais pas, lance un minuteur, mets en pause la musique, mais ça allait pas beaucoup plus loin.
C'était... Siri, je souhaite que tu sois libre.
Ouais, pas déconner celui-là. Et donc, ben
t'as ça... T'as la rêve quand même.
Pardon ?
T'as la rêve quand même.
Oui, Aladdin, voilà. Non, ma petite, elle est pas assez grande pour celui-là encore, je crois. Faudra que je vois. Bref... Désolé, il fait chaud, on est tous fatigués.
Donc, c'est la dernière de la saison,
et
d'ailleurs.
Et en plus.
Et on a, du coup, avec Marie, on a la meilleure pour la fin.
C'est ça. Et donc, Apple a annoncé une amélioration majeure de Siri pour lui intégrer vraiment de l'intelligence artificielle. Et donc là, ils ont dit, ah non, on ne va pas le sortir en Europe parce qu'en Europe, on ne peut pas parce qu'il y a des règles qui sont trop strictes. On a demandé une exemption, mais ils n'ont pas dit que... Enfin, on a voulu travailler avec l'Union européenne, mais ils ont dit que ce n'était pas possible. Alors qu'en fait, ce que Apple a fait auprès de l'Union européenne, ce n'est pas proposer des développements qui répondent aux règles. Parce que vraiment, Apple a dit... Apple a dit, je cite, les régulateurs ont rejeté ces propositions et donc les régulateurs auraient exigé, dans le cas du DMA, que n'importe quel fournisseur d'outils d'IA ait les mêmes accès que Siri sur les appareils des gens sans respect de la vie privée. Vous vous rendez compte, oh mon Dieu, c'est affreux. Et donc, réponse de la Commission européenne, ben en fait, non, c'est une décision d'Apple de ne pas mettre Siri AI en Europe. Apple n'a pas proposé de solution et n'a fait que demander à la Commission européenne une exemption pure et simple des obligations d'interopérabilité. En gros, Apple a dit à l'Union européenne, non, on ne veut pas le faire. On ne veut pas respecter la loi. Forcément, l'Union européenne a dit, merde. Voilà.
Oui, c'est comme le RGPD qui est quand même souvent utilisé comme bouc émissaire. D'ailleurs, pour dire que ça... oblige à embêter en fait le grand public alors que c'est un outil protecteur. Il y a toujours entre la Commission européenne qui n'a pas forcément bien vendu le RGPD et
ils l'ont pas bien vendu aux utilisateurs, aux citoyens en fait.
Oui.
Les citoyens qui sont ceux qui bénéficieraient le plus du RGPD, enfin ceux qui en bénéficient le plus aujourd'hui.
Toujours la petite musique, hein, c'est la faute à l'Europe, l'Europe.
Voilà, plus, voilà.
Et donc réglementation hors sol.
Et donc là, c'est la même chose ben, sur l'IA, Apple qui essaye de jouer de cette musique facho, pardon, de cette musique tout court. Et ben, dès qu'on creuse un petit peu sous le vernis, ça marche pas. Et pareil d'ailleurs pour WhatsApp. Meta a voulu intégrer son IA, son chatbot dans WhatsApp. L'Union européenne donne, enfin la Commission européenne ordonne la possibilité d'intégrer d'autres IA avec les mêmes droits. Point.
Alors cette fois-ci, on part ni en Europe, ni aux États-Unis, qui sont un petit peu nos continents favoris, enfin, le continent américain et le continent européen de notre émission. On va partir en Australie, donc en Océanie. Alors ça fait quand même parler plutôt de lui, hein, c'est que donc en fin d'année dernière, le 10 décembre, une loi interdisait donc aux mineurs de moins de 16 ans d'utiliser des réseaux sociaux. Avec toujours cette définition assez peu claire qu'est un réseau social. Par contre, laisser à l'appréciation de chacun des éditeurs, des entreprises qui éditent les services de réseaux sociaux, de choisir la méthode de vérification. Alors, les méthodes, c'est soit donner une photo...
Voilà, je te jure, j'ai 16 ans.
Non, c'était une photo, et à partir de la photo, c'est un petit peu... D'ailleurs, on utilise les mêmes procédés en matière pénale. C'est à partir de données biologiques. On veut deviner l'âge.
Il n'y a pas des scientifiques outre-Rhin dans les années 30 qui mesuraient les os pour savoir là.
Non, mais en vrai, ça se fait encore. Hein.
Oh, et en France, ouais, je sais.
Dans ce côté du Rhin, savoir en fait si tu relèves plutôt, pardon, de la justice des mineurs ou pas. J'arrête.
Ouais,
la digression. Enfin bref, comme dirait notre Manu National, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais plutôt que ça n'a pas marché puisque en fait ça. La baisse d'utilisation, en fait, elle est très, très légère. Une légère baisse chez les 14-15 ans et pas de changement notable chez les 12-13 ans.
Oh ben ça alors.
Alors bon, bah, bizarrement ils arrivent à trouver des parades, bah, soit en utilisant des comptes qui sont pas eux, qui sont enregistrés au nom de personnes qui ont plus de 16 ans, donc ils peuvent légalement utiliser les réseaux sociaux. Alors, on avait parlé hein, lors de il était question d'imposer ça donc directement dans les systèmes de flottation, mais il y a toujours le moyen d'utiliser le compte de quelqu'un d'autre. Bon après hein, les méthodes usuelles, hein, le fameux VPN. Alors j'ai entendu parler de l'article parle également de navigateurs privés, de navigation privée. Bon, c'est un navigateur avec VPN parce que bah, si l'enregistrement est obligatoire, je vois pas en quoi la navigation privée la changerait navigation quelque privée chose.
Ne change
je pense
rien.
Que voilà, je pense que la personne qui a écrit l'article dans le journal le choc des le poids des l'ennui, le choc des paupières pour ceux qui ont la ref arriveront à retrouver. Donc c'est une mauvaise incompréhension donc
Ils ont peut-être encore notre adresse mail pour nous recontacter. Ils nous avaient contacté.
Ils avaient contacté, effectivement. Je n'avais pas contacté personnellement.
C'était personnel, je sais plus.
Donc il y avait une sanction. Il y a une sanction de plus de plus 30 millions d'euros, donc 49,5 millions de dollars australiens. Sauf que l'Australie maintenant fait les gros yeux et donc, eh ben, puisque c'est ça, eh bien, on va augmenter l'amende puisque du coup l'amende est passée à 99 millions de dollars australiens, soit environ 60 millions d'euros en cas de manquement répété à la réglementation. Donc voilà, donc c'est alors donc, hein, on est d'accord, hein, ce n'est pas les mineurs qui sont poursuivis, les personnes qui ont accédé.
Oui, parce que 90 millions de dollars de la part d'un mineur, ça va être compliqué.
Au niveau argent de poche, je donne des éléments de contexte, s'il te plaît, Pierre. Donc voilà, ce ne sont pas les mineurs, les personnes qui vont dire, malgré leur âge sur des réseaux sociaux.
C'est pas les personnes qui commettent l'infraction qui sont poursuivies, c'est les personnes qui ont laissé commettre l'infraction.
Ouais. Alors, je sais pas quelle est d'ailleurs quelle est l'infraction. J'ai assez mal potassé le code pénal australien. Je t'avoue le code criminel australien qui est passible de l'infraction. En tout cas, enfin qui est l'auteur de l'infraction. En tout cas, ce sont bien les entreprises donc de la tech, les entreprises qui mettent à disposition les réseaux sociaux qui sont tenues de prouver au gouvernement australien qu'ils ont bien respecté la législation et donc qu'ils empêchent bien les mineurs de moins de 16 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Reste à définir ce qu'est un réseau social.
Ben, on a déjà une première liste en fait des entreprises, c'est Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, oui. YouTube.
Il y a des exemples évidents, voilà. Mais voilà, après il y a la frontière. On s'est posé la question d'ailleurs pour Wikipédia.
Oui.
Même n'importe quel forum, à partir du moment où vous inscrivez, vous discutez avec des gens. OpenStreetMap. Pas contribué depuis longtemps d'ailleurs. Les contributions artisanales, bon, c'était au début pour lancer le projet. Ouais. Maintenant, voilà. Je pas vraiment.
On en reparlera à l'occasion.
Quoi que si, c'est vrai que c'est la micro-contribution, c'est, la mise à jour. Voilà. Pierre me fait signe que.
On est en
train de digresser. C'est un petit peu la signature de l'émission. Pierre, de l'IA dans Google, les sites pourront explicitement refuser les résumés, ou plutôt qu'on résume avec de l'IA leur contenu.
Oui.
Tiens, ça nous intéresse, ça. En même temps, je pense que tu veux résumer de ceci, le podcast de l'Écho des Gnous.
Voilà, mais non, mais il y a un vrai problème. Dis quand même. Qu'est-ce qui rémunère un site web aujourd'hui ?
La publicité.
La publicité. Mais la publicité où ?
Sur le site.
Voilà. Ça a l'air rien dit comme ça, une fois qu'on a posé cet élément.
Et c'est pas la première fois qu'on parle donc du coup de la volonté de Google, mais c'était l'émission précédente, il me semble. Google veut éviter maintenant que vous alliez sur le site en question et pompe les résultats.
Ils sont en train d'enfoncer le clou encore sur ça. Donc là, aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, au début du mois, ils ont annoncé que les sites web allaient avoir l'autorisation de demander à ne pas être inclus dans les AI Overviews. Alors les AI Overviews, vous avez sûrement tous la chance de ne pas les avoir subis. Moi, j'ai le bonheur d'avoir un ordinateur en configuration US et donc je me retrouve avec ces trucs-là.
Alors c'est la configuration ou c'est la localisation de l'adresse IP ?
J'ai un VPN d'entreprise qui me balance en plus.
C'est le VPN, oui.
Alors non, mais je sais pas, je t'avoue. Je
sais pas qui est coupable, tu n'as pas mené l'enquête.
Non, parce que honnêtement, je préfère configurer DuckDuckGo. Faut pas déconner, mais donc les AI Overviews,
ça marche vraiment bien, DuckDuckGo.
Oui,
merci Pierre.
En tout cas, j'utilise que ça depuis 15 ans, donc voilà. Mais donc, les AI Overviews, vous tapez une recherche sur Google, et puis au lieu d'avoir les réponses, les sites web qui apparaissent en premier, ce qu'il y a en premier, c'est tout un baratin où il essaye de répondre à ta question que tu t'étais pas posé toi-même de cette façon-là.
Mais ça, c'est la version. Mais en France, on a ça, hein.
En France, on l'a, mais la version américaine est plus développée que ça, a priori.
Et la version française, enfin européenne, est déjà bien relou. En plus, souvent des questions à côté de la plaque.
La version franco-française n'existe pas, en fait, a priori. Pour l'instant, les AI Overviews, tels qu'ils existent ailleurs, n'existent pas en France.
En tout cas, moi, quand je suis un utilisateur de Google, quand je fais une recherche, j'ai des réponses à 10 questions que je ne m'étais pas posées, et des questions qui, souvent, sont quand même à côté de la plaque.
Et donc, désormais, les sites peuvent demander gentiment à dire non, on ne veut pas être inclus dans les AI Overviews, on ne veut pas être aspiré pour ces trucs-là.
Oui, c'est un petit peu l'équivalent du nos robots, quoi.
Ouais, sauf que, de une, c'est un petit peu tard, ça fait quand même des années, les AI Overviews, ça date de 2024, ça fait 2 ans.
Et ça, c'est la question de l'opt-in et de l'opt-out.
Exactement, et là, les sites doivent dire, non, moi je ne veux pas.
Alors que ce serait l'inverse, ce serait à Google de recueillir le consentement.
Exactement, surtout que
du site en question.
Accessoirement, deuxième élément plus rigolo, sur Google Chrome, il y a une fonctionnalité qui a été intégrée pour ne plus avoir. En fait, alors elle est pas activée par défaut pour l'instant, heureusement. Mais donc, lorsqu'on utilise la barre d'adresse de Google Chrome, qu'on tape des mots, qu'on tape pas une adresse, ça lance une recherche. Eh bien, désormais, il y a une fonctionnalité pour que, au lieu de faire cette recherche en affichage de liens, comme toutes les recherches Internet depuis des années, il y a une fonctionnalité pour que ça devienne une discussion d'IA, en mode discussion d'IA.
Alors, moi, je ne suis pas sûre de ce que vous dites, parce que quand j'écris, j'ai essayé une recherche sur
donc,
Google.
On a nos sources, madame.
Je vous présente la cellule fact-checking de l'Écho des News qui vient fact-checker les présentateurs.
En fait, je fais une recherche sur Google. Quand j'écris huître, parce que c'est ma recherche, huître, j'obtiens un truc où j'ai d'abord des photos d'huîtres. Des photos d'huîtres. Ensuite, j'ai effectivement 10 questions. C'est quoi une huître? Quelle est l'huître la plus consommée en France? Tout ça. Ensuite, j'ai Wikipédia. Ensuite, vidéo, tout ça. Mais en fait, quand j'écris une question, les huîtres respirent-elles, par exemple? Et là, j'ai un truc qui commence par aperçu IA.
Ah oui, j'ai déjà vu ce genre de choses.
Et là, je me demande si c'est ça.
Alors, est-ce que c'est de ça dont on parle?
C'est ça, mais normalement, c'est pas encore déployé de manière systématique en France.
Je suis sur google.com, mais après, normalement, il doit détecter que je suis bien en France, à Lille.
Le problème, c'est que, tu vois, moi, je l'ai lancé ici sur le navigateur de la radio, et les huîtres respirent-elles? Et non, je n'ai pas le résumé, enfin, j'ai pas cette formulation-là.
Donc à ce moment-là, c'est peut-être mon navigateur qui est encore réglé en mode Suède, mais c'est l'Europe.
Non, mais ils font par pays.
Ah, c'est pas impossible que la Suède soit beaucoup moins défense.
Mais c'est aussi juste parce qu'ils n'ont pas testé ou parce que ils entrent dans les problèmes de loi aussi spécifiques de droits d'auteur. Et...
Je sais pas comment vérifier ce que Google pense de ma localisation.
Non, franchement, c'est pénible à vérifier. Tu as raison de faire ce fact-checking, mais c'est compliqué de savoir si une fonctionnalité est présente ou non dans Google. Ouais. Je t'assure que elle n'est pas activée pour tout le monde en France. C'est la seule chose, effectivement, qu'on peut dire si on veut être correct. C'est pour ça que j'ai dit sur mon ordinateur de boulot, c'est activé, parce que ça détermine que moi, je suis un ricain, et voilà.
Et en tout cas, apparemment, l'IA dit que les huîtres ont des branchies et qu'elles leur permettent de capter l'oxygène.
Oui.
Voilà.
Après, je ne suis pas expert en biologie, mais un organisme vivant sans oxygène, j'ai 2-3 notions.
Il fallait poser une question.
Et poser une question. Et la réponse, c'est un premier morceau de musique que nous allons écouter. Et là, ce morceau de musique s'appelle donc, et je vous ai entendu une seule fois, Obsession de Carmine Rendina. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Coming soon.
Una flor encontré, tus ojos buenas, tu sueño. No sé si está obsesionado. todo no hace falta. Los fantasmas se deprimen y los egos se inflaman. Llamas que nos queman y destruyen amor, dejando en su camino un amargo sabor. Un pueblo lleno de esta gente que no siente la muerte de la mente, el derrumbe de presente. Corriendo mi camino, pare. Tus labios un amor encontré. Tus ojos una historia soñé. Si esta obsesión me hará bien, quisiera olvidar que perdí la oportunidad de hacerte feliz. Y no quiero alejarme de ti. Y no quiero alejarme de ti.
C'était Carmine Rendina, Obsession, un petit peu de reggaeton. C'est pas un style habituel chez nous, mais j'avais envie de changer un petit peu. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus, c'est la deuxième partie de l'actualité. Et on va parler actualité logicielle. Pas libre, tiens, pour une fois. On va parler de Microsoft.
Ben, pas libre, mais ça a de l'importance, je trouve, globalement, sur quoi qu'on fait. On va dire dans le monde de l'informatique. Donc oui, Microsoft est en train de travailler. ils se sont pris quand même un sacré retour
de bâton,
ouais, une shitstorm en anglais, sur Windows 11, parce que ben, plein de gens ne voulaient pas passer à Windows 11, parce que c'est de la merde. Je résume, hein, je vous épargne
la
version technique, c'est vraiment tout pourri. Et donc, ben là, Microsoft est au courant, hein, ils ont entendu au bout d'un moment, et donc là, ils ont commencé à confirmer que oui, ils vont faire des gros changements sur Windows 11 et sur ces applications, parce que ben, on a peut-être un peu abusé, les gars.
Et donc, sur quelque chose qu'on dénonçait plusieurs émissions, les applications qui en fait ouvraient une page web, l'abus d'applications web, et même Microsoft s'est rendu compte que bah, cette politique n'était pas forcément fondée et très appréciée par les utilisateurs.
Exactement. Donc là, après Microsoft, ils étaient allés très loin, on va dire, dans l'abus d'applications web, justement encapsulé sous avec un gros déguisement dégueulasse pour faire croire que c'était pas une application web. Donc il y a leur application Outlook, l'application Teams, l'application Copilot. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples donnés? Non, j'en ai pas d'autres en stock. Mais voilà, il y a plein de composants, même je crois des éléments majeurs du système qui reposaient sur l'affichage de pages web. Alors pourquoi font-ils ça? Ben c'est très simple, il est très facile de trouver des gens qui savent concevoir des pages web et qui maîtrisent toutes les technologies pour faire des pages web. Le monde des startups a poussé au développement de tas de technologies pour développer des pages web, encore une fois, et donc, ben c'est plus facile.
Oui, moins qui savent faire du C++, C# et...
Voilà, et donc là, Microsoft a décidé de mettre en avant WinUI 3, donc leur nouvelle façon de développer des applications. Dans l'article, je viens de retrouver un des composants de Windows 11, justement, qui a été fait en page web, et justement, enfin, avec des éléments de page web, et où justement, ça se sent, le menu démarrer.
Ah, là, quand même.
Ouais, on en était arrivé là.
Et rassure-moi, c'était bien hors ligne.
Oui, hors ligne quand même, mais c'est les technologies de page web. Et du coup, alors, j'ai tendance à essayer de m'intéresser aux problématiques de performance, d'optimiser les moindres millisecondes.
Et là, il y a un peu de rame, non? Parce qu'un navigateur qui lance...
Alors, le moteur tourne en permanence en arrière-plan, mais ça ne peut pas être aussi fluide que ce qu'est le menu démarrer. Ben alors... Le menu de démarrer de la grande époque, on va dire, des Windows 95 jusqu'à Windows 7, c'était un menu qui était hyper fluide. Même le menu d'un Windows 10, il est très fluide et très rapide à s'ouvrir. Ça, c'est une vitesse que tu ne peux pas atteindre sur des composants d'applications web. C'est pas fait pour. T'es en train d'utiliser un truc qui est fait pour afficher des documents, pour afficher une application, et tu fais tourner tout... Enfin, c'est un non-sens technique total. Bref, donc Microsoft a confirmé qu'ils ont l'intention d'utiliser WinUI, qui est leur nouvelle solution de développement d'applications natives. Et ils veulent que tout le monde l'utilise, et même eux, ils vont l'utiliser. Donc il était temps à suivre. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un retour en grâce des applications natives plutôt que d'avoir tout sous forme d'applications web méga lourdes et inutilisables?
Et rassure-moi, ils ne sont pas en train encore de rajouter une nouvelle API? Déjà que tu dénonçais la multiplication des API.
Voilà. Hein? Non, ça fait partie des nouvelles. C'est pas encore une nouvelle. Ils ont supprimé le numéro de version.
D'accord.
Comme ça, tu vois, il n'y aura pas de nouvelles.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle la recherche de documents sur Windows est tellement lente?
Ça t'inquiète. Le talent, ça nécessite beaucoup de création et d'innovation. C'est autre chose, je pense. D'accord. Ça. Mais je t'avoue, je ne vais pas installer un Windows 11 juste pour répondre à ta question. Je suis désolé.
J'avoue que là, ce genre de questions, on n'est pas le meilleur.
Non, mais ça peut être intéressant à creuser, ce genre de questions à chaque fois. Mais moi, je t'avoue, je n'ai pas de Windows pour creuser. Une autre de Microsoft?
Une autre de Microsoft.
Ça m'a fait beaucoup rire, celle-là.
Ans plus tard, Microsoft veut enfin améliorer l'impression sous Windows.
Oui, alors. J'ai dit 20 ans plus tard, je t'avoue que je suis peut-être mesquin, j'ai pas vérifié la date de la création de IPP Everywhere. Donc, en fait, c'est ce qui fait que sous Linux et macOS, l'impression, c'est d'une simplicité, c'est
Si ton imprimante est bien supportée.
C'est le cas de la plupart. En fait, si l'imprimante supporte macOS...
J'ai pas d'imprimante à la maison depuis l'an 40, alors si ça se trouve, je me bats avec des vieux souvenirs.
Moi, la dernière imprimante que j'ai achetée, je l'ai branchée, et puis j'imprime depuis mon ordinateur, depuis un téléphone portable, et je scanne depuis un ordinateur et un téléphone portable. Ça fonctionne, c'est juste, ça fonctionne tout seul. Sauf pour Windows. Parce que Windows... Et rester dans la mode de oui, il faut que le fabricant fasse un pilote et le fournisse. Et que donc là, Microsoft, ils ont dit on va développer une nouvelle technologie, on va développer Windows Ready Print. Et donc, désormais, les nouvelles imprimantes doivent être Windows Ready Print. Alors, Windows Ready Print, c'est pas récent, ça date déjà d'un certain temps, mais désormais, une imprimante doit par défaut supporter cette technologie. Et en général, elle supporte aussi IPP Everywhere.
Sinon, elle n'a pas son petit logo Microsoft compatible.
Voilà. Donc, ça a de l'impact. Mais voilà,
Ils
rattrapent leur retard, il était temps.
Quelques sorties logicielles, Pierre, pêle-mêle. Et une autre.
Une
qui te tient à cœur.
Oui, qui me tient à cœur, c'est la Document Foundation. On en a parlé, on a parlé de la suite EuroOffice il y a quelques mois déjà. Et... la suite EuroOffice, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui ont pris OnlyOffice, une suite bureautique développée dans je ne sais plus quel pays balte, à la base, et qui ont décidé de faire un fork et de le développer de leur côté, et de dire, tenez, ceci est la première suite bureautique souveraine européenne, et c'est vachement trop bien. Premier défaut dont j'avais parlé dans cette émission, c'est cette suite bureautique ne fonctionne par défaut qu'avec les formats de Microsoft. Microsoft Office OpenXML, qui n'a d'open que le nom. Et là, la Document Foundation, donc, qui développe LibreOffice, s'agace quelque peu de la situation, parce qu'il rappelle tout d'abord que, la suite bureautique LibreOffice est la première suite bureautique souveraine développée en Europe, puisque l'histoire du projet vient d'une entreprise allemande à la base dans StarOffice. Et de souvenir, il y a 15 ans, on trouvait encore des codes sources des commentaires en allemand. Oui. J'avais déjà dû en traduire parce que j'avais besoin de comprendre un bout de code. C'était intéressant, mais c'était l'une des seules fois où l'allemand m'a servi techniquement. Et donc, le deuxième problème qui est pour la Document Foundation, c'est aussi le fait que cette suite EuroOffice utilise vraiment, par défaut, le format Office OpenXML, alors que ce n'est un format qui n'est pas ouvert du tout, c'est un format qui est conçu par, pour Microsoft, et que même Microsoft ne respecte pas parce que ils s'en foutent. Donc, à suivre, hein, on verra ce qui va advenir d'EuroOffice, parce qu'ils ont réussi à faire un petit buzz. Est-ce que ça va prendre au-delà du buzz?
Il faudra expliquer qu'un logiciel libre, de manière réellement libre, au sens où même Pierre, tu l'entends toi de manière un peu plus restrictive, c'est-à-dire développé de manière communautaire et qui ne dépend pas d'une seule entreprise, est par essence un outil souverain.
Et pour nos auditeurs, OXML, c'est bien ce qu'on appelle les docx, les XML.
Exactement.
Et alors, j'avais lu un truc techniquement, j'ai essayé de me demander pourquoi c'était ouvert, pas ouvert. Alors j'ai entendu qu'il y avait une histoire de documentation, que c'était assez mal documenté par Microsoft.
Alors à la base, ce format était aussi fait pour contrer, en fait, ils ont réagi lorsque donc l'Open Document Foundation,
l'ODF, ODS,
a fait normaliser le format de LibreOffice.
D'accord.
Voilà. Et donc, la réaction de Microsoft, ça a été de normaliser leur format. Sauf que, d'abord, il y a ce qui a été normalisé. Il y a longtemps été reproché à la normalisation d'Open Document d'avoir été juste, on a pris les fonctionnalités d'Open Office, LibreOffice, et puis on en a fait une norme, et voilà. Sauf que je m'étais amusé à l'époque, j'avais implémenté des fonctionnalités dans la suite bureautique de KDE, des fonctionnalités qui sont dans la norme, mais que LibreOffice n'implémente même toujours pas, même aujourd'hui.
D'accord.
Parce que la norme fait des choses que LibreOffice ne fait pas. À l'inverse, la norme de Microsoft ne gère que les fonctionnalités de Word, mais attention, ça va très loin de mémoire. Alors, j'ai plus les noms des éléments en tête parce que ça date quand même d'il y a 15 ans ces recherches-là. Il y a des fonctionnalités dans la norme Microsoft Office OpenXML pour gérer des comportements spécifiques de Word 95. Ils ont intégré ça dans une norme de maintenant. Ça n'a aucun sens, sauf pour être en fait une correspondance directe de leur format, de leurs anciens formats vers les nouveaux formats. Et là où c'est encore plus dégueulasse, c'est que cette norme-là, donc, Outre le fait que ce soit une norme de 6000 pages qui réimplémente des tas de trucs qui existent déjà dans notre norme, donc ça en fait une mauvaise norme, Microsoft, en fait, ne l'a jamais respectée. La première version de Microsoft Office à la gérer, c'était Microsoft Office 2007, mais c'était un dérivé, c'était la version transitoire, et ils sont depuis restés toujours sur des versions transitoires, donc c'est des versions non conformes. Et le mode strict, de mémoire, ils l'ont même supprimé dans les dernières versions de Microsoft Office. Donc, c'est une norme de nom. Il n'y a que le nom qui est une norme. Le reste, le contenu, ce n'est pas une norme. Et après, d'un point de vue technique, honnêtement, le contenu est dégueulasse. C'est des documents que tu n'as pas envie de manipuler.
Oui, pour les curieux, et un truc qui impressionne toujours mes étudiants, les DocX, les XLSX, en fait, vous pouvez les dézipper, vous faites unzip. Et en fait, c'est des XML qui sont zippés, en fait.
Ça s'appelle OXML.
Voilà.
Et c'est la même chose, d'ailleurs, pour Open Document. Parce que, d'ailleurs, petite blague, j'ai cherché ça il n'y a pas longtemps.
Vous dézippez un ODT.
Oui, c'est
je ne savais pas ça.
Oui, tout à fait. Écoute, il fallait venir à une présentation que j'ai faite à Htinux il y a 20 ans.
Actuellement, quand j'ai appris qu'on pouvait dézipper un paquet .deb, en fait, c'était des fichiers et...
Oh.
Ouais, c'est une archive AR qui contient des archives
TAR. Oui.
Voilà.
Et vaut mieux TAR
que GZ. Détarisé, en fait.
Détaré.
Ouais. Pardon.
Donc, la norme Office OpenXML, on pourrait faire une dégradation sur ça un petit peu pour creuser plus, mais non, il y a des vraies problématiques derrière parce que c'est un format qui est strictement lié à Microsoft Office et à un outil du coup qui est propriétaire. Même si on considérait qu'il n'y a pas grand monde d'autre qui implémente Open Document, c'est quand même lié à un logiciel qui est libre. Ça aide quand même la situation.
Ouais.
Quelques sorties logicielles pêle-mêle, Pierre.
Oui, alors KDE Plasma 6.7, alors la seule chose qui est vraiment notable, je pense, pour tout le monde, c'est de dire que c'est la dernière version, a priori, à supporter les sessions classiques X11, désormais.
Pour le tout le monde technique, quand même.
Oui, tout le monde technique. Désormais, l'avenir, c'est Wayland, c'est terminé, le monde du libre a enfin migré. Firefox 152 avec support du JPEG XL, ça fait plaisir pour les gens qui manipulent des photos, on va peut-être enfin arrêter d'utiliser le JPEG qui date de la fin des années 90, bordel, on a fait des avancées en compression.
Mais maintenant, la augmentation des débits, Pierre.
Oui, allez.
Hein ?
Allez, hein, on va... Moi aussi, je peux raconter des blagues, fais gaffe. Et sinon, une autre, on en avait parlé il y a... un an, deux ans, le AMD avait dû faire marche arrière sur le support de HDMI sur le pilote Linux parce que, en gros, on leur avait dit « Non, vous n'avez pas le droit de mettre ça dans un pilote libre. » Et donc, ils ont dû tout retravailler la chose pour bouger, pour cacher un petit peu les éléments qu'il ne fallait pas montrer de la norme. Comme ça, maintenant, le pilote libre peut enfin commencer à supporter les télés 4K HDR, je sais pas quoi, avec je sais pas quelle fonctionnalité de rafraîchissement avancée. Mais il était temps que le retard puisse être enfin rattrapé. Merci le forum HDMI pour cette grande avancée technique.
La dégeekalisation, c'est après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter tous ensemble Tony Peterson, You Freak Me Out Sometimes. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique classée, campusgilles.com.
In my my notebook for years. Been seeing a face when clouds appear, like you've always been here, always been near. I could write a life shotgun for you, be braver than an outlaw, stepping up at high noon in a new bandolier. No fear, no fear. 'Cause you're as peaceful as a blueberry cupcake sail on a sunny street. You're as wild and just as sweet as a summer cherry tree, but I ain't gonna lie, you freak me out sometimes. You freak me out sometimes.
C'était Tony Peterson, You Freak Me Out Sometimes. Vous écoutez les Godenous sur Radio Campus. Oui, on a un petit peu le ventilateur. Il fait chaud dans le studio. C'est l'été, la canicule est finie, mais le bâtiment n'est pas encore entièrement refroidi. Bref, c'était de la country. Et pareil, j'avais envie d'innover un petit peu. Nous sommes une émission innovante, n'est-ce pas, Marie, n'est-ce pas, Pierre? Et Pierre, c'est l'heure de la séquence.
J'ai changé mon sujet dans ce cas.
Que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégicalisation. Pierre, c'est quoi la complétion de code en 2026 et surtout à l'ère du code généré par IA?
Exactement, et du coup, ça va être l'occasion aussi d'expliquer un peu ce que c'est les outils des développeurs, parce que c'est vrai que la complétion de code, mais qu'est-ce que cette chose? Les développeurs
et les développeuses,
les ingénieurs en informatique, voilà.
Développeureuses.
Ouais, développeureuses, oui.
Mais ça fait, il y a peureuse dedans, c'est pas très joli. On réfléchira.
The people writing code love developing. Tu vois, en anglais comme ça, je suis pas embêté. Non, c'est vrai que c'est compliqué les genres comme ça. Donc, en tout cas, pour le développement de logiciels, on a développé des outils justement pour nous simplifier la vie. Alors, on va faire un petit peu. Je vais juste vous faire un petit peu d'historique. La première machine sur laquelle je développais, donc, c'était un ordinateur Thomson TO-8. On tapait le code. Alors, il fallait mettre des numéros de ligne, déjà.
C'était assez basique comme code.
Exactement, c'était du basic Thomson 512. Le basic 1.0 de la machine était quand même vachement limité. Et donc...
Ça faisait print, go to, if...
Oui, voilà, on avait les bases, les for, les while, etc. Les gosub et les return, quand même. Hein, on n'était pas non plus complètement à la rue. Mais donc, l'éditeur de texte était ultra primitif. On tapait les caractères, ils apparaissaient en bleu sur bleu. En bleu foncé sur bleu clair. Et c'est marre, il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait rien pour t'aider, il n'y avait pas rien pour te dire « Là, t'as fait une faute de frappe, mec. » C'était à l'exécution du code, ça disait « Perdu. » Débrouille-toi. Et c'était austère à souhait. C'était les outils de développement de la fin des années 80, et même début des années 80, c'était pareil. On a commencé à voir apparaître, par contre, des outils plus évolué au fil du temps. Donc, dans les années 90, quand j'ai commencé à utiliser des outils, alors Visual Basic, Delphi, donc je sais, des outils propriétaires, mais à l'époque, j'avais pas accès au monde du logiciel libre. Ces outils-là ont commencé à avoir de la couleur, déjà. Donc, les mots-clés du langage, les if, les for, etc., étaient dans
une
couleur.
Comme ça, c'est vachement pratique pour lire du code.
C'est indispensable, en fait. Ouais. Ça rend le code lisible. C'est comme si on vous faisait lire un texte et où on vous supprimait tous les sauts de ligne et les espaces entre les mots. Hein, c'est bon, il n'y a pas besoin des espaces. C'est beaucoup plus... Et la ponctuation, on enlève aussi, ça ne sert à rien. Le cerveau a besoin de marqueurs pour distinguer les choses. Et en fait, un bloc de code, il n'y a pas de ponctuation nécessairement partout. Donc ça aide énormément d'avoir la coloration des mots. Mais il y a des tas de trucs qui se répètent. Par exemple, quand on a écrit une variable, on a créé une variable Toto, quand on commence à écrire To, la suite, en général, ça va être To, parce que c'est la variable, elle s'appelle Toto. Tu l'as créée comme ça. Et du coup, ben avec l'augmentation de la puissance des machines, dans les années 90, on a commencé à avoir la complétion de code. Et ça a commencé à se répandre de plus en plus. Moi, pour ma part, ça me... les brises graves de devoir utiliser des outils qui n'ont pas de complétion de code, je trouve ça...
Ça documente les fonctions également.
Exactement.
Ça permet de savoir le nombre d'arguments, quels sont les arguments attendus.
Voilà, ça te dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe. C'est super pratique. Ça te dit, ben là ici, la fonction afficher un message, oui, ben le premier paramètre, c'est le message à afficher. Voilà, c'est intéressant de savoir ça, et puis de savoir que le suivant, ben, savoir s'il faut poser la question oui ou non, par exemple. Ça aide à comprendre tout de suite et on tape vraiment beaucoup plus vite parce qu'on appuie juste sur une touche au lieu d'avoir à taper tout le message complet. La complétion de code, vraiment, ça a été une révolution. Dans les années 2000, par contre, elle a commencé à être en déclin. Pour une raison toute bête, c'est qu'on a commencé de plus en plus à avoir des langages de programmation comme PHP, Python, JavaScript, qui n'ont pas d'informations de type. C'est-à-dire, l'outil, il sait qu'il y a une variable qui s'appelle Toto, mais il n'a aucune idée de ce qu'elle contient. Du coup, il peut vachement moins aider. On a vu un retour vers la fin des années 2010 où on a commencé à sortir une artillerie de plus en plus lourde pour dire, alors en fait, non, c'est bon, j'ai deviné le type de cette variable. Donc c'est bon...
Parce que, mine de rien, il faut quand même qu'il y ait une analyse presque de la compilation ou de l'interprétation en amont. Hein,
c'est de l'analyse
du code.
Hyper compliqué. Et donc là, l'historique des outils de développement. Et là, on arrive maintenant en 2026. Et j'avoue, celle-là, je ne m'y attendais pas. L'outil en question, je l'ai utilisé en plus, je l'utilise pour le boulot maintenant. Et je me suis rendu compte du truc et je me posais la question. Je n'ai pas creusé. Quelqu'un a creusé et il y a un problème. Là, je vais parler de mon cas au boulot. J'utilise un nouveau langage de programmation. Et en plus, on me force à utiliser un Mac. Donc, j'ai pas accès à mes outils habituels. J'ai commencé à aider à porter les outils sur...
Pierre, nous t'écoutons. C'est l'écoute des gnous. C'est ouvert. Ouais. 19h à 20h, un dimanche sur deux.
Et donc, là, je dois coder en Go. J'ai pas l'habitude de ce langage de programmation. Donc voilà, je l'apprends en même temps. Donc un outil qui fait de la complétion, qui aide à documenter le code, c'est assez indispensable pour vite monter en vitesse sur un langage de programmation qu'on connaît pas. Et là, l'outil que j'utilise... Donc, il y a un outil de JetBrains, qui est un éditeur d'outils de programmation. Il a commencé à me faire des trucs de complétion. Là, j'étais en mode,
what?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a un truc.
Il devine. C'est pas juste, ok, t'as commencé à mettre le nom de ta variable. C'est ça. Là, j'ai créé une ligne, puis après, je fais print, parce que j'avais besoin d'afficher la valeur de la variable que je venais de créer. Il m'a automatiquement proposé d'afficher la valeur de la variable que je n'ai... Toute la ligne. Générée tout seul, je fais. Ah bon? C'est étonnant. Puis quand je commence à faire, alors oui, je lance cette fonction-là, mais je vérifie s'il y a une erreur. Ah bah, il fait toute la gestion d'erreur tout seul, il va me faire.
On est de la génération de code.
On est sur la génération de code plus que de la complétion. Mais là où il y a un problème... Ben, c'est que la complétion de code en question, c'est pas forcément les trucs les plus intelligents du monde, ce qu'elle propose.
Et t'as pas forcément... Oui, c'est ça, tu veux quand même maîtriser ton code.
Alors moi, je le maîtrise, je choisis ce que je prends, mais par contre, il y a des suggestions qui sont assez gênantes. Là, c'est un développeur en Python qui a signalé, et c'est pas une faille de sécurité, je suis d'accord avec l'éditeur, c'est pas une faille de sécurité, mais c'est des suggestions quand même audacieuses. Donc là, par exemple, dans Python, une bibliothèque pour faire des téléchargements. URL lib3. Donc voilà, tu tapes import URL lib3 pour dire que tu vas l'utiliser. Puis tu tapes U. Ensuite. Et là, la suggestion automatique de code, c'est URL lib3, c'est désactiver les avertissements en cas de requête non sécurisée.
Pique.
ça pique, ou désactiver la vérification des certificats SSL. C'est, niveau sécurité, ça pique. Ça pique sévère. Le problème, c'est que, je suis d'accord, c'est pas une faille de sécurité, c'est de la génération de code, c'est basé sur les codes écrits le plus souvent, ce qui est assez inquiétant du coup sur le... je dis souvent que les IA sont entraînées sur le code existant, ok, le code existant, c'est 99%, c'est de la merde. Donc j'ai peur. Notez qu'une partie de mon code est dedans. Hein. J'ai aucune honte à dire que j'ai déjà écrit du code de merde. Ça dépend du contexte. Quand un script écrit en vitesse, ben c'est la majorité du code dans le monde. Ça n'a pas de contraintes de sécurité nécessairement. Mais donc, il y a une vraie problématique avec la complétion de code de nos jours. On est passé du coup d'un outil simple à effectivement un truc qui se mélange à de la génération de code. Moi, j'ai deux problèmes avec ça.
Qui peut induire en erreur.
La possibilité que ça t'induise en erreur, que ça te fasse écrire des trucs incorrects, et la violation de copyright. Puisque le code en question, il a été repompé de quelque part.
Oui, c'est la question à chaque fois sur le code généré. Ça, c'est une question.
Exactement. Et on est sur ça.
Après, est-ce que c'est pas mieux que d'écrire, de dire dans une boîte de dialogue, génère-moi tout le programme et on toucherait au programme. Là, c'est des intermédiaires. J'utilise la suggestion de code. Hein, donc,
je ne sais pas à quel point c'est mieux.
Moi, du diable, mais.
Moi, je m'en sers uniquement pour terminer une ligne, quoi.
Oui, terminer les lignes, c'est
pas plus. Est-ce que ça améliore ou pas la qualité moyenne du code généré?
Le problème, en fait...
Après, il faut qu'il y ait une forte déontologie sur le code. Il touche à des fonctions critiques.
Il faut pas
le faire.
C'est ça, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ne pas l'utiliser. Moi, j'ai aucune honte à mon boulot. Il y a eu un truc que je devais faire en Go, justement, je connaissais pas du tout assez le langage pour faire ça. J'ai demandé à une IA de me générer du code pour avoir une idée de comment on faisait. J'ai pas réutilisé une ligne du code généré par l'IA, c'était de la merde. Le code en question ne marchait pas, de toute façon. Elle était trop mauvaise. Mais le gros du code qui existe dans le monde est bourré de bugs. Les IA ont été entraînés sur des montagnes de bugs. Donc ça va être très intéressant à suivre.
Et pour ma part, je perds beaucoup de temps parce que j'ai souvent des codes à faire qui sont assez spécifiques. Et quand c'est vraiment très spécifique, très niche, ça commence à suggérer des choses qui régénérisent en fait, remet dans le générique. Et on commence à avoir beaucoup de mal à...
Il ne comprend pas le problème particulier que tu veux...
Il ne comprend pas le problème particulier, il essaie de changer le problème, en fait.
Voilà. Ce n'est pas qu'il essaie de changer le problème, c'est qu'il propose que ce qu'il...
Une solution à un problème qu'il connaît.
Oui.
Voilà, oui. Il propose que ce qu'il peut connaître. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est juste un perroquet. C'est rien d'autre.
Je crois qu'on peut débattre de cette notion encore longtemps et longtemps, Pierre.
On a toujours de voir de l'intelligence artificielle.
Merci en tout cas. Merci pour cette dégeekalisation. Pierre, vous avez eu...
La dernière de l'année.
Oui, il y a deux semaines, vous avez eu un petit best-of pour ceux qui étaient derrière leur transistor. Un petit best-of des dégeekalisations récentes de Pierre. Alors, quelques brèves diverses et variées pour terminer l'émission, terminer la saison.
Moi, je trouve ça important de faire ce genre de bref parce que bon, les années passent et du coup, on commence à en avoir de plus en plus. On a appris récemment le décès de Tony Kruger, qui était développeur chez Microsoft et qui est le créateur, a priori, de la correction d'orthographe en temps réel et le fait de souligner en rouge ou en vert les mots et les fautes.
Mine de rien, c'est quand même une fonctionnalité très utilisée en contexte professionnel.
Et que tout le monde... Tous les outils ont réimplémenté et qui aujourd'hui disparaît puisque on voit de plus de gens écrire de la merde et l'imprimer et le diffuser et ça pose aucun souci. Donc je sais pas où est-ce que son invention a été perdue, mais en tout cas je trouve qu'il y a eu un impact plus positif sur le monde que des Steve J ou autres qui n'ont fait que du commerce, mais apparemment c'est pas ce qui compte le plus aujourd'hui. Oh pardon, j'ai encore été amer. Une autre... pour finir sur une bonne nouvelle...
Mère, tu es allé manger de la pâtisserie?
C'est ça. On va finir sur une bonne nouvelle.
Allez, bonne nouvelle, Pierre.
Moi, ça, c'est vraiment... Je la trouve très positive, celle-là. Donc, la spécification AV2 est disponible.
Ah, je suis de joie.
Voilà. Moi, alors, moi, je suis...
Marie, partage ma joie.
Mais Auchan V2, j'ai pas compris.
Non, voilà.
Pas de pub, madame.
Ouais, pas de pub.
Tu dis Villeneuve-d'Ascq, maintenant.
Chut, pas de marque. Donc, en fait, les codecs, donc H264, H265, AV1, AV2,
codec, etc. Codec, on a dit pas de marque de magasin.
Je ne l'ai pas celle-là, je ne connais pas ce magasin. Et donc, les formats de compression vidéo, pendant les années 90-2000, c'était la guerre. C'était une horreur, même le H264. On est obligé dans Firefox d'avoir un plugin qui a été développé par Cisco, qui a donné son accord pour utiliser les licences qu'ils avaient. C'est une tannée. Alors que maintenant, depuis des années en fait, les nouveaux codecs qui sortent sont tous ouverts. Il n'y a plus personne qui se dit « je vais développer un format de compression et je vais le verrouiller pour être le seul à pouvoir l'implémenter ». Il n'y a plus que des formats ouverts pour l'encodage de vidéo.
Tu ne comptes pas pour la transmission de la vidéo.
Pardon ?
Pas forcément pour la transmission de la vidéo. Avec HDMI, les DRM.
Alors ça, les fils, ça c'est encore un autre sujet, on est encore loin d'y être arrivé à ça, mais malheureusement ça va être plus compliqué. Mais voilà, les VP8, les VP9, AV1, AV2, c'est des formats qui sont ouverts. YouTube utilise ces formats-là par défaut d'ailleurs. Et en fait, il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'idée que ce soit des formats ouverts qui dominent le monde pour la diffusion de vidéos, c'était inimaginable.
On a connu l'époque où c'était la galère pour lire une vidéo parce qu'il y avait 15 codecs incompatibles. L'époque où la norme, de fait, c'était Flash. Et en gros, ça marchait partout. Et finalement, même si on était livrés, on trouvait ça quand même assez pratique. Et là, maintenant, effectivement, on ne se pose même plus la question. On va sur un site internet, on va sur une page web, on lit la vidéo, on ne se pose même pas la question.
Alors, du coup, MP4, c'est ouvert ? Les MP4, c'est ouvert ?
Alors non, c'est pas un codec, madame.
Pardon, excusez-moi.
C'est un conteneur, ne faites pas l'amalgame.
Et là, attention. Tu viens de donner à Pierre un sujet de délocalisation. T'as vraiment bien fait de venir.
Il a déjà été fait il y a quelques années, celui-là, je crois, en fait.
Presque 300 émissions, Pierre. J'ai pas le.
Hein. Ah bah, t'es pas bon.
Merci.
Non, donc, non, MP4, en fait, c'est un conteneur. Il y en a plusieurs dedans après. Donc, bon, c'est compliqué. Tu peux mettre du AV2 ou du AV1 dans un conteneur MPEG.
Eh ben, je pense que tu peux refaire. Je pense qu'une délocalisation.
Je sais qu'il y en aura une à refaire sur ça.
Depuis 10 ans, je pense que. Une piqûre de rappel et pas inutile. Un petit point sur l'agenda, on va parler de Marie un petit peu. Tu as parlé de toi
De Glasgow ?
Allez, vas-y.
Oh, non, je parlerai à Glasgow, mais bon, ce sera retransmis.
Tu parles de ce que tu veux.
Ce sera retransmis le 15 août. Je vais à Hack Glasgow et je vais présenter une conférence qui s'appellera Farewell Windows 10. Glory to Linux, et ce sera présenté.
Au revoir Windows 10, gloire à Linux. Voilà. Je fais la traduction en temps réel.
Ce sera présenté en toge et en alexandrin parce que oui, la fin de Windows 10, c'est une tragédie, n'est-ce pas? Voilà, et surtout, je vais annoncer Ch'tit Dev demain. Lundi, on a Flora Nov.
Donc lundi 29 juin, demain pour ceux qui nous écoutent en direct.
2026. On aura Flora Nov. J'espère que j'ai pas voilà son nom. Mon ambition, mon choix. Et ensuite, on aura Emmanuel Aboaf avec le sujet comment concevoir et tester un site accessible. Et ce sera 4 allées du Château Blanc à Wascal. Et c'est à AXA, à 18h45.
Donc, je dirais tramway Château Rouge. Je connais le quoi. Comme d'habitude, la permanence de l'association Ch'tinux chaque dernier mardi du mois, donc mardi 30 juin, de 20h à 22h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille.
Et j'ai oublié de dire que notre Ch'tit Dev demain est en mixité, donc messieurs, vous êtes les bienvenus.
Et
c'est aussi à distance pour ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à Wascal. Voilà.
Il y a 27 sections dans la norme MPEG-4. La deuxième et la dixième correspondent à des codecs vidéo, effectivement. Mais les...
Et la pandémie, bon.
Ah non, mais... non, pardon, la 15 aussi correspond à un format de codec, mais il y a aussi des formats de conteneurs, des formats de vidéos, des formats de police de caractère,
on
des formats de compression
mille fois, mille
3D.
Formats vidéo.
C'est une tannée. Le MP4, ça ne veut rien dire, en fait. C'est pas méchant, hein, attention, c'est vraiment... On met MP4, mais en fait, c'est tellement
c'était
un foutoir.
C'était le 299e pardon. Numéro de l'éco-dégmini. Bonnes vacances. Et à la rentrée aura lieu le 300e numéro. Est-ce qu'on fera quelque chose? Genre, ça absolument rien. Tenez-vous informés sur le fil Blue Sky de l'Écho des Gnous et éventuellement sur le site l'écho-des-gnous.org, peut-être on mettra une petite bafouille. On remercie encore une fois Marie d'être venue.
Merci.
Et comme toujours, tu es la bienvenue dans le studio quand tu viens nous voir de Suède. Et très très bonnes vacances à toutes et à tous. Bonne fin de week-end. Au revoir et à toutes.
Au revoir,
rendez-vous
tout le monde.
Avec Chupa Pimento.